Bonjour, bienvenue sur Underscore. Si vous vouliez tout savoir, présentez-vous au guichet.
Bonjour Mimen, bonjour Madbel, bonjour Flo.
Bonjour
à tous.
Hello.
Et bonjour les auditeurs. Et oui, vous voici dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Nous sommes enregistrés dans les studios de Radio Méga 99.2 FM à Valence et également écoutables sur Radio Cactus 92.2 FM à Semur-en-Brionnais. Et pour revenir sur les petits bruits que vous avez entendus, oui, c'était une grenouille. Et oui, parce que Flo, tu nous as dit...
Oui, tout à fait, Cécile. Le sujet du jour porte sur les grenouilles, plus exactement sur des grenouilles savantes et des rats de bibliothèque.
On y croit.
Voilà. On y croit. En tout cas, on écoute d'abord un peu d'actu.
Et qu'est-ce qu'on a ?
OpenTTD a 20 ans. Le jeu open source de gestion de transport a maintenant 20 ans, débuté par un clone de Transport Tycoon Deluxe.
Madbel.
Changement de cap pour la musique libre et Dogmazic. Ou pas, pour ses 20 ans, l'association Musique Libre, qui est des Dogmazic, a publié un poisson d'avril.
Mais oui, et ce poisson d'avril, il était fort. Hein.
Entre les grenouilles et les poissons. Nintendo ferme les serveurs SpotPass demain. Donc si vous avez une 2DS ou une Wii U, vous pouvez aider à préserver les jeux exclusifs qui étaient diffusés sur cette plateforme en les archivant vous-même, parce qu'on ne peut pas le faire pour vous, avant demain soir. Après, ce sera plus possible. Ouh, c'est mal ça.
Tout.
Carrément, oui.
Voilà. Et c'est tout pour l'actu.
Allez, on écoute une petite chiptune. Timeline de Virgile. À tout de suite. Alors, les auditeurs, il s'agissait de la musique Timeline 2 de Virgile, une musique qui a été présentée à la révision de cette année. Eh bien oui, pendant que ceux qui, le week-end dernier, ceux qui cherchaient des œufs de Pâques dans les champs, ben moi j'ai récupéré des tas de musique.
T'as cherché des démos ?
Démos, puisqu'il y a eu la révision 2024, avec des tas et des tas de productions et des nouvelles, des nouveautés. Donc voilà, vous allez découvrir, suivant les mois à venir, quelques musiques bien sympathiques.
T'as tout vu, mais c'était cool, ouais.
C'est ça. Alors, il s'agissait d'une musique à illustrer une petite démo qui a terminé seconde dans la catégorie Fantasy Console Competition. Donc c'est des
consoles qui n'existent pas en vrai, c'est mais ça. Quand même il y a des émulateurs. En
fait. La TIC 80. Eh bien, nous allons passer au sujet du jour.
Ben oui.
Cette année, et plus exactement depuis le 29 mars 2024, cela fait 20 ans que la Bibliothèque municipale de Lyon offre à tout internaute francophone un formidable service de questions-réponses personnalisées en ligne, une référence en la matière. À l'occasion de la fête organisée pour célébrer cet anniversaire, Underscore s'est entretenu avec Anne-Laure Collomb, qui est responsable de ce guichet du savoir depuis 2009.
Et donc on va écouter l'interview.
Bonjour avant tout.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter et nous dire qui compose l'équipe du guichet du savoir à l'heure actuelle? Aussi, quelles sont les personnes passées par le service, qu'elles soient employées, stagiaires, services civiques, etc.
J'ai un nom qui me vient à l'esprit, enfin j'en ai deux. Le premier, c'est Delphine Bordet, qui est en poste au guichet du savoir depuis 2004. Donc c'est quand même une chose assez extraordinaire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que non seulement elle est en poste depuis 2004, mais je pense que sa motivation n'a pas diminué. Elle est toujours aussi heureuse et curieuse face aux questions. Elle est toujours pleine d'entrain pour traiter les questions. Donc ça, je trouve ça très beau. Deuxième personne, je pense à personnes qui ont créé le guichet. Donc Christelle Di Pietro, Patrick Bazin, les personnes qui ont aussi participé comme Annie Garden. Patrick Bazin, qui était directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon. Christelle Di Pietro, elle est arrivée, elle, vraiment, c'est elle qui a mis en place en interne le service. Et puis, alors, j'ai eu, une sorte de turnover de personnes au sein du guichet, parce qu'on a des compléments de temps partiel. On a eu beaucoup d'étudiants, j'ai eu énormément d'étudiants. Il y a des années de ça, j'ai eu un étudiant égyptien, on devait monter un service de questions-réponses en Égypte, à Alexandrie. Ça ne s'est pas fait, mais on voulait faire le service de questions-réponses du monde arabe. Voilà, c'était un beau projet, donc j'avais adhéré à cette idée et j'avais proposé qu'on le porte ensemble parce que je trouvais que c'est chouette. Voilà, et puis après, donc, j'ai eu beaucoup d'étudiants, aussi bien qui venaient de l'ENSIP que de Master ou de Sciences Po, parce que le sujet les intéresse. Et du coup, ils sont venus sur des missions un petit peu particulières, mais surtout dans l'idée de découvrir ce qu'était le guichet. Habituellement, nous sommes un guichet très féminin. Et pour des questions d'absence, etc., actuellement, là, au jour où je vous parle, le guichet est essentiellement masculin. Voilà, donc il y a trois garçons qui participent au guichet, dont un, Grégoire, qui est au guichet maintenant depuis à peu près 5 ans. Voilà, et les nouveaux, là, viennent. Enfin, on a deux nouveaux qui sont arrivés, là, il y a un mois et 3 mois.
L'équipe s'appuie également sur nombre de bibliothécaires. Dans quels établissements ce travail s'est renforcé et comment sont réparties les questions? Est-ce que c'est thématique? Est-ce que c'est...
Alors, la répartition est thématique, effectivement. On a à peu près 100 de collègues qui travaillent sur les questions du guichet, sachant que la majorité des questions sont traitées par l'équipe du guichet, hein, puisque l'équipe du guichet, c'est vraiment sa mission première, principale, c'est celle-ci, c'est de répondre. Alors que les autres bibliothécaires ont des missions annexes. Ce qui est important, c'est qu'on fait appel à ces collègues lorsqu'on sait qu'ils auront plus d'expertise que nous pour traiter la question. Donc c'est des répartitions thématiques. C'est essentiellement les bibliothécaires de la Bibliothèque municipale de Lyon de Lapardieu qui répondent. Mais nous avons aussi deux collaborations des collègues de la Bibliothèque de Vez, parce qu'on a un département art vivant, donc ils vont traiter les questions sur tout ce qui est théâtre. Surtout ce théâtre, ils sont spécialisés là-dessus. Et puis, on a des collègues au BHU qui, eux, se sont spécialisés sur la question thème de la santé. Donc, eux vont traiter les questions de santé.
Le guichet du savoir, c'est aussi quelques personnages au-delà des personnes. Je pense notamment à Eugénie Crapouillet et puis Antoinette Larenette, ou encore la grenouille et le rat de bibliothèque dans les questions sous forme d'épisodes vidéo. Que pouvez-vous nous en dire?
Alors, c'est des pseudos qu'on a trouvés, puisque pour nous, le guichet du savoir, son visuel, c'est une grenouille. Voilà, donc depuis sa création, on est resté sur cette grenouille. Au sein de notre équipe, on s'était donné des pseudos autour d'Antoinette Larenette, et notamment pour les réseaux sociaux. On a fait effectivement des vidéos avec le rat de bibliothèque et la grenouille qui conversait. C'était un petit clin d'œil. Et voilà, et c'est, C'est parfois des expérimentations, en fait. On essaye des formats et formats de réponse sous format de vidéo. On trouvait ça intéressant, en fait. Voilà.
Si on se réfère aux captures de la Wayback Machine d'Internet Archive, la dernière refonte du site web a été publiée en septembre 2021. Alors, vous savez combien il y en a eu de sites, ouais, deux.
Il y en a eu uniquement deux. Il y en a eu une, je crois, faut, je veux pas vous dire de bêtises, hein, fera vérifier auprès de ChatGPT, mais on a eu normalement une refonte aussi en 2011, voilà. Et en fait, c'est beaucoup et pas beaucoup, c'est même très peu, parce qu'un site devrait évoluer tous les deux ans. Pour des questions budgétaires, on ne peut pas forcément... Parce que les pratiques évoluent énormément, en fait. Et donc, les attentes aussi des internautes ne sont pas les mêmes. Dans le nouveau guichet, par exemple, vous avez dû constater qu'il y a une partie commentaires. Les gens peuvent commenter et viennent enrichir nos réponses. Et ça, c'était une demande depuis très longtemps. Et je trouvais ça très chouette de pouvoir le faire. Et si demain, je devais refaire le site, je leur donnerais encore un peu plus de place, parce que là, c'est en bas de la... Et au contraire, peut-être que ça aurait été bien d'enchaîner notre réponse directement avec leurs commentaires, de le valoriser aussi, parce que, de fait, on a des commentaires... on a même l'impression, des fois, d'avoir des historiens ou des historiennes qui guettent nos réponses pour pouvoir les compléter. C'est super. Et alors, du coup, c'est vraiment du collaboratif et c'est intéressant.
À l'inverse, est-ce qu'il y a eu des choses que vous avez abandonnées de l'ancien site, par exemple, vous pensiez que ça marcherait et...
L'onglet actualité, par
exemple. On a enlevé des onglets. Effectivement, on avait fait des onglets et on pensait que ça allait intéresser les gens. Et ce n'était pas si clair. En fait, les gens étaient un petit peu perdus. Alors là, on a quand même gardé des... On a créé des nouvelles rubriques comme les SOS parce qu'on s'est aperçu que, bon, nous, on est humains. Donc, on a des limites et des fois, on ne trouve pas la réponse et on le dit. Et donc, par contre, on s'est aperçu que souvent, les internautes, eux, il y a des internautes qui avaient la réponse. Donc, on aime bien mettre en avant ces SOS pour faire un petit appel au peuple pour que les gens puissent compléter.
J'ai vu que vous aviez mené des enquêtes auprès de vos utilisateurs et utilisatrices, notamment en 2023 et en 2019. Donc, ça, on pourra mettre les liens sur les rapports de... les bilans de ces enquêtes. Oui. Et je voulais savoir, où peut-on consulter en fait les rapports successifs de ces enquêtes et combien en existe-t-il? Parce que c'est vrai que j'en ai trouvé deux, mais peut-être qu'il y en a d'autres.
Il y en a plus. En fait, idéalement, on essaye de le faire tous les deux ans. D'accord. Alors, il y a eu des ratés. Il y a eu des années où on ne les a pas fait. Quand j'ai commencé en 2009, l'ouverture des données, ce n'était pas quelque chose... On commence, on est dans l'administration, on commence tout juste à le mettre en place.
L'open data, ça vient tout doucement.
Ça vient tout doucement. Et finalement, ce que vous avez trouvé, c'est des fois, on s'est dit, il faut quand même que les internautes ils puissent avoir nos retours sur nos enquêtes. Voilà. Et souvent, en fait, on ne le mettait pas en ligne, mais on essayait de leur refaire un mail. Enfin bon, voilà. Alors, il y a aussi des protections des données qui fait qu'on ne peut plus envoyer des mails comme ça pour avertir. Là, on a essayé de au moins de synthétiser en fait sur un certain nombre de questions. Mais c'est vrai. Alors, si vous pourriez retrouver, il me semble, je vais peut-être m'avancer. Il y a les bilans d'activité de la bibliothèque. Et dans ces bilans d'activité, quand je fais des enquêtes, parfois, il m'arrive de faire un petit retour sur ces enquêtes.
D'accord. Voilà. Fouiller un petit peu.
Donc il va falloir fouiller un petit peu parce que alors je sais pas s'ils sont vraiment mis en avant et voilà, faut fouiller un petit peu. Et puis peut-être que dans les années futures, on pourra envisager de mettre en ligne. On n'a rien à cacher sur qui sont nos internautes.
Oui, c'est intéressant pour voir l'évolution.
Ouais, ici, tout à fait.
Question technique. Parmi l'ensemble des outils numériques utilisés pour que le guichet fonctionne. Quels logiciels ont été choisis pour rendre ce service tel qu'il est? Est-ce que vous utilisez le moteur de recherche de Google, l'encyclopédie collaborative Wikipédia, ou est-ce que vous utilisez ChatGPT? Alors, on a eu la réponse, nous, parce qu'on était à la conférence avant, mais nos auditeurs vont l'apprendre aussi. Et puis, est-ce que l'apparition de ces nouveaux services en ligne, qui sont un peu disruptifs, Est-ce qu'ils ont créé de l'inquiétude quant à la pérennité du guichet du savoir, peut-être de l'éloignement de certains utilisateurs ou utilisatrices qui ont peut-être trouvé d'autres façons de répondre à leurs questions, et quelles plus-values permettent à votre service de se distinguer et de caractériser sa nécessaire complémentarité par rapport justement au moteur de réponse qui est en train de devenir Google, notamment, quoi.
Alors oui, on utilise les moteurs de recherche, oui, on utilise bien évidemment Wikipédia, parce que c'est une ressource comme une autre, très intéressante, et surtout, elle aussi donne des références. On utilise surtout beaucoup nos ressources à nous, bibliothèques, forcément. Mm-hmm. Donc c'est quand même la base, je dirais, on utilise tous nos ouvrages, toutes nos revues, mais aussi tout ce qui a pu être numérisé. Donc oui, effectivement, on utilise en fait à chaque fois... l'idée, c'est de pouvoir répondre en utilisant le plus de ressources possible. Donc, peu importe. Peu importe qu'elles soient numériques ou papier. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va faire pour la trouver. Il y a deux choses qui sont importantes pour moi. C'est toujours quand même utiliser les collections de la bibliothèque, parce que je pense que c'est important. C'est ce qui fait notre plus-value par rapport à un ChatGPT. Mais en même temps, pouvoir donner des choses en ligne, c'est aussi important, parce que moi, ma mission première, et c'est un avis totalement personnel, ça n'engage que moi, pour moi, le guichet du savoir, il a un rôle aussi de lecture publique. Et si les gens qui viennent au guichet ne peuvent pas venir en bibliothèque, mais par contre peuvent quand même parcourir les articles, et quelque part, je me dis qu'on a réussi notre mission. Et vous m'avez posé une autre question qui était...
Ah oui, c'est... Alors, soit c'était au début, c'était les outils, donc je pensais ne serait-ce qu'à la présentation, l'outil pour le forum qui était...
Alors, l'outil pour le forum, alors nous, on a toujours utilisé des logiciels libres de droit, voilà, qu'en fait, on les développe. Alors, sur la refonte, là, on a pris un prestataire extérieur, mais habituellement, on fait appel à notre développeur en interne.
D'accord.
Voilà, donc ça a toujours été fait en interne et on est toujours libre de droit. C'est-à-dire que je vais écrire un cahier des charges. En fait, ce qu'il y a de bien avec le libre de droit, c'est qu'on peut quand même écrire beaucoup de choses. Moi, je fais un gros cahier des charges et après, on voit ensemble ce qui est possible et ce qui n'est pas possible.
Libre de droit.
Oui, libre, pardon. Oui, sous les licences libres, pardon, excusez-moi. Oui, sous licence libre.
Parce que les auditeurs sont un peu sensibilisés à ça.
Sous licence libre, oui. Et donc, voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, le développeur va... Va essayer de faire au mieux. Donc, on a eu PHPPB, par exemple. Là, aujourd'hui, actuellement, on est sous Symfony.
D'accord. Est-ce que c'était la question que vous recherchiez ou c'était
je ne sais plus, parce que vous m'en avez posé
4 ou 5, du coup. C'est ma faute.
J'ai retenu les... Parce que je ne suis pas encore le chatbot. J'ai une mémoire, finalement, qui est assez défaillante.
Non, après, voilà.
Est-ce que ça avait créé l'inquiétude quant à la pérennité du...
Inquiétude, oui et non.
C'est des questions qui ont été posées.
Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui ne sont pas revenus?
Oui et non. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des utilisateurs et des utilisatrices qui ne sont pas revenus. Mais parce qu'aujourd'hui, ils se débrouillent par eux-mêmes. Ils sont en autonomie sur Internet. Ils trouvent beaucoup de choses et ça leur suffit. Donc ça, ce n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Hein. C'était vrai... il y a 3 ans, il y a 5 ans, quand ça a été créé en 2004, le web, c'était une grande découverte quand même encore. Donc très peu de gens savaient bien utiliser toutes les ressources. Maintenant, les gens sont formés, donc ils sont quand même plus à même d'utiliser. Surtout pour des requêtes simples, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de nous. Inquiétude, oui et non. Moi, je ne suis pas très inquiète. En fait, je ne suis pas très inquiète dans le sens où il y a deux choses. D'une part, aujourd'hui, j'utilise beaucoup, c'est pas vrai. J'aime bien répondre. Souvent, je réponds et après, j'interroge ChatGPT pour voir ce qu'il lui aurait fait comme réponse. Je suis assez rassurée parce qu'il invente beaucoup encore et que pour quelqu'un de lambda qui ne fait pas attention, c'est quand même souvent erroné, donc il faut se méfier, il faut être méfiant. Que c'est une synthèse qui ne donne jamais ses sources, donc on ne sait pas où il a pioché pour faire ses réponses. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, pour l'instant, nous, tout est... Il y a une chose, enfin, il y a plusieurs choses. On se bat depuis des années sur la question d'esprit critique et de faire attention aux sources. Donc, je pense que c'est notre métier. C'est de faire attention aux sources qu'on utilise. Et si on prend... on va s'appuyer sur des journaux avec des courants politiques diamétralement opposés, on le sait. Et on va le faire en connaissance de cause. Voilà. Donc ça, déjà, c'est une chose importante qui fait que, pour l'instant, je suis pas très inquiète, parce que je pense qu'au contraire, aujourd'hui, on a un vrai travail à faire, donc il n'y a pas de gros soucis. Deuxième chose, c'est que peut-être que... Voilà, on est là depuis 20 ans, c'est un très beau service, mais peut-être qu'il va évoluer, et qu'effectivement... nous bibliothécaires, bah, faut aussi se projeter sur ce que sera la société demain, et peut-être que en fonction des évolutions de service, ça sera autre chose. Voilà, mais il y aura forcément, pour moi, que ça soit le guichet du savoir ou un autre service, le bibliothécaire, on a des atouts. C'est à la fois notre expertise, c'est nos collections, voilà. Et c'est de savoir fabriquer, nous aussi, des données. Donc peut-être qu'on utilisera autrement l'outil, mais qu'en tout cas, on pourra aider toujours à la recherche et à la mise à disposition de ressources, de connaissances.
Alors oui, lorsque vous séchez sur des questions, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, vous les placez dans une rubrique spécifique qui s'appelle donc SOS, le guichet sèche, et vous lancez un appel à votre communauté sur la plateforme de réseautage social Facebook. Cette dernière est souvent décriée en raison des dérives à répétition et du modèle économique de l'entreprise éditrice. Pensez-vous animer prochainement un compte en parallèle sur un réseau plus vertueux afin d'offrir une alternative aux internautes qui se soucient de ces questions mais souhaiteraient aussi vous suivre et relever les défis de vos SOS? Je pense notamment, voilà, Mastodon qui fait partie
j'ai vu votre référence. Alors pourquoi pas? Bon, de toute façon, c'est des questions qu'on se pose et je pense que tout le monde se pose. Faut-il être sur Twitter? Faut-il être sur Facebook? Forcément, c'est problématique. Moi, il y a quand même une chose qui... Alors là encore, c'est très personnel. Je dirais que service public, c'est aussi important d'être sur ces réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas laisser la place uniquement aux autres et qu'on est aussi là pour, sur des sujets d'actualité, pour essayer de donner des points de vue différents et des éclairages différents. Donc, voilà, c'est critiquable, tout se défend et tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, on s'est forcément posé la question de notre présence sur ce type de réseau. Il n'y a pas de réponse idéale, il me semble. Et déserter, je ne suis pas certaine. J'avais lu beaucoup de publications là-dessus, d'articles sur des scientifiques. Et justement, sur le débat, est-ce qu'on doit continuer à être sur Twitter ou pas, par exemple. Et finalement, la communauté scientifique était assez divisée. Et moi, j'étais assez d'accord pour dire, mais si on est dans l'entre-soi et on ne parle plus qu'à ceux qui sont convaincus, on s'enferme un peu plus. Et ben, peut-être qu'il faut être aussi sur ces réseaux pour ne pas être dans l'entre-soi. Et voilà, ça, c'est un premier point. Et Mastodon, j'ai bien vu, j'ai bien pris en considération. J'ai commencé à y réfléchir, je vais y réfléchir. J'en parlerai à mon équipe pour voir s'ils valident.
D'accord. Oui, c'est vrai que j'insiste sur le côté en parallèle parce qu'effectivement, je conçois qu'il y a... sur ces réseaux une masse critique de personnes et c'est important de les atteindre, donc c'est pour ça que je parlais d'eux en parallèle, mais ce qui pose le problème de, du coup, ça fait du travail supplémentaire,
c'est du travail supplémentaire. Voilà, exactement, tenir, exactement, d'autres comptes. Voilà. mais effectivement, c'est des choses que moi je m'interroge beaucoup je pense malheureusement ou heureusement, on peut pas faire l'impasse des réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est une pratique commune, donc il faut l'accepter, mais ça interroge parce que c'est chronophage, parce que plein de choses et qu'il faut réussir à concilier toutes les missions.
Vous l'avez dit, donc il y a un aspect participatif sur le site avec des on peut donc commenter. Répondre, commenter, etc. Effectivement, les questions, enfin les réponses apportées. Comment sont notées donc les différentes réponses, qui répond Est-ce que c'est comment on sait si c'est un membre du guichet du savoir, si c'est une bibliothèque tierce à qui vous avez demandé, si c'est un internaute? Est-ce que c'est bien clair? Alors, la distinction et du coup, voilà, est-ce que vous avez après au niveau du site, justement, si vous avez des métriques sur des questions qui sont sorties du lot parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de réponses et s'il y avait des polémiques vraiment enflammées? Ou les gens sont assez urbains sur notre site, je ne sais pas.
Alors, les gens sont très urbains sur notre site, parce que je pense qu'on est une institution, on est une bibliothèque et que c'est encore un lieu qui est à peu près respecté, je veux dire. Voilà. Donc, il y a rarement eu des dérapages. C'était d'ailleurs les inquiétudes de tout publier en ligne en se disant oui. « Oh là là, il y aura des dérapages. » Non, il n'y a pas de dérapage. Oui. Les gens sont aussi capables. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure. Donc, on n'a pas eu de dérapage. C'est pas une inquiétude. Après, pour savoir de qui répond, ben, on a des pseudos. Donc, alors, certains collègues ont joué le jeu. On peut aller cliquer sur notre profil, se sont décrits. Certains ne l'ont pas fait. Moi je suis assez pour ne pas normer et laisser un petit peu de liberté, donc je pense que c'est la richesse, d'ailleurs je me suis toujours là-dessus positionnée, la richesse du guichet, c'est le fait que vous avez donc mon équipe plus 100 personnes qui peuvent répondre et que chacun, entre guillemets, bien évidemment il y a des normes, c'est-à-dire il faut avoir l'esprit critique, etc., mais chacun répond à sa façon, sans normes, et c'est ce qui fait l'originalité. Vous allez tomber sur des gens qui ont beaucoup d'humour et ça sera très marrant. Ça se ressent. Vous allez tomber sur des gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'écriture, ça se ressent aussi. Mais chacun fera, et je trouve que c'est aussi la richesse du guichet, c'est cette diversité. Et du coup, pour tout ce qui est pseudo, etc., j'ai respecté cette liberté.
Alors, moi, j'avais noté un petit peu, parce que, du coup, vu que je suis lecteur du guichet, j'ai pu remarquer qu'en tout cas, sur la nouvelle mouture du site, les pseudos étaient accompagnés ensuite du département, oui. Par exemple. Quand, oui. Donc, on va savoir très vite identifier, oui. Si on regarde à côté du pseudo, si la personne est membre du guichet du savoir, si c'est l'un des départements auxquels vous avez fait appel, oui. Pour...
Effectivement, il y a le pseudo et le département. Et quand il n'y a rien, souvent, c'est que c'est nous. C'est mon équipe. Et d'ailleurs, vous pouvez nous reconnaître parce que nous, on est en GDS, après un underscore. Ouais, et nous, on est les GDS. Donc, on sait quand on a répondu, on sait que c'est les GDS.
Pour terminer, à l'occasion des 20 ans d'existence du service, vous avez offert cette opportunité de venir vous rencontrer, d'échanger, de réfléchir ensemble au savoir d'hier et de demain, dans le contexte particulier des progrès fulgurants du numérique et notamment de l'essor de l'intelligence artificielle. Donc ça, je pense que c'était un peu ce qui était écrit d'ailleurs sur la page de l'événement. Pouvez-vous détailler à nos auditeurs et auditrices la programmation de cette journée à la bibliothèque Pardieu et nous indiquer si vous pensez publier un bilan des témoignages recueillis par le formulaire diffusé en amont de l'événement et qui a donné lieu, je crois, à des portraits générés par l'intelligence artificielle.
Pour ce qui est du programme, l'idée, c'était d'avoir... Moi, je trouvais ça un petit peu... Enfin, c'était très important qu'il y ait l'ancien directeur de la bibliothèque parce que c'est lui qui a créé le guichet du savoir.
Qui était à l'initiative
du guichet. C'était un service totalement novateur, donc c'était important qu'il revienne sur cette création. Et je voulais ouvrir quand même, je voulais pas qu'on passe une journée sur le passé, mais quand même sur le futur. Et donc, je voulais qu'on revienne, qu'on s'interroge aussi sur l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'était pas avoir qu'une approche scientifique, mais aussi une approche artistique. Donc, on a demandé à la compagnie Atropos de venir faire leur spectacle. Qui est Garudia, qui porte sur une chatbot. La compagnie a répondu favorablement et avec courage parce qu'en fait, le spectacle ne pouvait pas être joué en l'état à la bibliothèque. Et donc, ils l'ont adapté pour le faire en mode lecture, mais lecture un petit peu jouée. Donc, ce n'était pas évident, mais je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi. À la suite de quoi on a une table ronde sur l'intelligence artificielle et les chatbots. Alors initialement il y a Laurence de Villers et Gilles Dovec devaient aussi nous rejoindre et ils ont été malheureusement obligés d'annuler leur venue, mais on a eu les très belles contributions de Serge Habitboul et de Lisa Bresner. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais que c'était vraiment une approche très agréable. Alors, du coup, en plus, avec des points de vue quand même, qui était assez complémentaire, différent et complémentaire. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle approche.
Ils n'étaient pas d'accord sur tout.
Ils étaient très bien.
Et alors, pour ce qui est de notre requête auprès des internautes, déjà, on a été très contents parce qu'on a eu beaucoup de retours. Et l'idée, c'est que finalement, ces 20 ans, bon, là, ça correspond aux 20 ans, mais finalement, les 20 ans, c'est toute l'année. Donc, on a décidé sur les réseaux sociaux, s'il faut faire des montages, vous avez vu ces petites vidéos, ça prend un petit peu de temps pour les... Ben, au départ, on avait essayé de faire 100 vidéos, mais ça rendait pas très bien. Donc là, on fait des vidéos. Donc, on s'est dit qu'on allait en faire toute l'année, on va les
Égrainer un peu,
diffuser
oui.
sur tout 2024. Ça
D'accord.
sera...
Oui, ce sera égrainé un peu tout au long de
Voilà,
l'année.
donc en fait, on va faire tous les montages au fur et à mesure et ça sera grainé le long de l'année 2024. Comme ça, il y aura à la fois des réponses que moi, je tenais à ce que nos collègues aussi participent. Donc, on leur a aussi posé des questions. Donc, il y aura à la fois le retour de nos collègues et le retour des internautes.
Super.
Voilà.
On aura les deux
Vous aurez
côtés.
les deux côtés exactement. Hein.
C'est super. Et oui, donc ça, ce sera sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'à la fin de l'année, du coup, il y aura comme une sorte de galerie numérique où on pourra retrouver l'ensemble des productions
Eh
ou c'est plus
ben,
difficile, ça?
on n'a pas,
Où
on
les
n'a pas,
stocker?
ouais, on n'a pas envisagé ça, mais
D'accord.
il faudra peut-être qu'on réfléchisse ou est-ce qu'on peut l'aider. Moi, j'avais proposé sinon qu'on les dépose sur la chaîne de YouTube de la bibliothèque,
D'accord.
sur lesquelles il y aura aussi les rendez-vous. Enfin, il y aura les entretiens de Christelle Di Pietro, je disais Annie Garden et Patrick Bazin qui ont participé donc à la création. Et puis il y aura qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis perdue. Je réfléchissais à une autre question en même temps que
Pardon.
je vous répondais. C'est pour ça que je me suis perdue dans. C'est la question de la mémoire et de la conscience dans les chats.
Justement, justement.
Et
Oui,
là,
là, parce qu'on n'a plus.
probabilité d'Alzheimer, 92%.
Voilà, donc c'est exactement ça.
Oui, sur la question du flux des réseaux sociaux, alors qu'effectivement, on disait pour les retrouver tous et pour cette
Ouais,
mémoire.
il faudra qu'on regarde, mais je pense qu'on les mettra peut-être
On a abordé
sur
la question de
YouTube. Hein.
l'immortalité pendant la table ronde aussi.
Exactement, donc je pense que c'est là qu'on pourra retrouver. Voilà, puis elles resteront sur les réseaux sociaux de toute façon, qui sont ce qu'ils sont, je suis bien d'accord,
Oui,
mais peut-être
tant
qu'on
qu'ils
pourra les mettre
existent.
sur un autre réseau
Tant
social.
qu'ils existent, mais voilà.
Voilà.
Eh bien, super. On vous remercie
Eh ben,
beaucoup
je vous
pour,
remercie
merci
d'être
beaucoup
venu.
pour ce temps
Et je suis
accordé.
très contente de savoir que vous êtes lecteur du guichet. Moi, je dois vous dire que, vu que vous allez le diffuser,
Oui.
pour moi, je trouve que c'est toujours très agréable. Parce que mes collègues qui répondent souvent et s'interrogent, ben on s'interroge toujours sur l'utilité d'un service comme ça. Est-ce que vraiment on nous lit? Est-ce que ça correspondait? Est-ce que, voilà, il y a toujours le est-ce que. Et quand on a des retours d'internautes qui nous disent merci pour votre service, c'est chouette, et ben ça donne vraiment, on est content, ça. On se dit, ben on ne fait pas ça pour rien. Et on a vraiment l'impression, du coup, d'accomplir une des missions du service public.
Voilà, et si vous aussi vous avez trouvé cet entretien trop court,
C'est vrai ça?
eh bien vous pouvez retrouver la transcription de cet entretien augmentée avec de nombreux liens vous permettant d'en apprendre encore davantage sur underscore.radio.fm, notamment les rapports d'activité de la bibliothèque municipale de Lyon qui mentionnent le guichet y seront listés, ainsi que quelques autres ressources supplémentaires pour devenir incollables sur le service. Et bien sûr, il y a eu une captation lors de la journée. Et si on trouve les vidéos, on vous les mettra à la suite.
Pas de souci.
Merci Flo.
Merci Flo. Allez, on écoute
Merci Flo.
une musique de Virgile pour terminer l'émission et après nous passerons à l'agenda. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Underscore, sur Radio Méga ou Cactus, selon là où vous êtes. Et c'était Virgile, donc le titre s'appelle « Sointu, phosphorescent, purple, pixel, pixby ». Il s'agit d'une musique qui a illustré une 4K, une intro phosphorescent, purple, pixel, pix. Passons à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Nous avons...
Le cycle d'ateliers d'initiation au logiciel libre reprend chez Fabrico. Vous pouvez encore vous raccrocher au train, découvrir la philosophie et l'histoire du logiciel libre ou en trouver, appréhender LibreOffice Writer, les services en ligne et Nextcloud et un peu d'Arduino pour donner envie d'aller plus loin. C'est les ateliers LibriTech.
Et ça se passe où ?
Au Fabrico, 7 rue Belle Image, 26 000 Valence.
Et c'est gratuit sur inscription. Mais Belle ?
Initiation à la facilitation graphique. Avec AD, vous avez l'impression d'avoir une mémoire de poisson rouge, de ne pas retenir ce que vous prenez en notre réunion cours de leçon. Venez vous initier à la facilitation graphique, une chouette méthode pour mieux mémoriser. Pour adultes et enfants avec leurs parents, c'est le mercredi 10 avril de 18h30 à 20h30. Cause toujours, oui rue Gaston, Ray, 26 000 Valence.
Soirée libre bidouille avec Linux 07, c'est l'occasion de voir comment ça marche, de demander ou de donner un coup de pouce et découvrir tout l'univers de GNU Linux. Mercredi 10 avril, 19h-23h30, place de la mairie à Désaigne, c'est en Ardèche.
Et une soirée libre G3L, ce sera le vendredi 12 avril de 19h30 à 22h30 à la MJC Châteauvert à Valence.
Les ateliers 10-16 ans au Fabrico. Pour les prochaines vacances scolaires, Fabrico vous propose des ateliers pour les 10-16 ans avec des nouveautés. Mardi 16 avril de 14h à 16h30, c'est atelier fidget spinner imprimé en 3D. Le mercredi 17 avril de 14h à 16h30.
Oui, c'est toujours de 14h à 16h30.
Ah oui, c'est tout le temps de... D'accord. Donc atelier fabrique ta fusée à eau, atelier stop motion Lego et atelier flocage.
Les 18 et 19 avril. Et c'est au et Fabrico, c'est... sur inscription.
Pub.
Voilà, et c'est 20 euros l'atelier. Il y a des frais un peu pour l'adhésion aussi.
Voilà. Les Fabrico, c'est 7 rue de Belle Image à Valence.
Exactement, Talo.
Du lien et des liens. Nous avons quoi ?
Le Sovereign Tech Fund allemand demande notre avis pour la création d'un programme pilote de financement de mainteneurs de logiciels libres.
Une lettre ouverte aux universités européennes pour le soutien des initiatives open source, notamment pour les outils EDA.
FDN lance la communication sur son VPN public, parce qu'ils en ont un. Et non, on ne dit pas la FDN.
Et enfin, Inclusive 100, une police de caractère créée pour l'accessibilité et la lisibilité.
Ah.
Astrologique, frottons cette boule. Alors, bibliothécaire, attention, vous venez de vous faire piquer par la lance du destin.
Technocritique. Ah non, c'est pas pour moi ça.
Je l'ai fait. Mes 3 gigas par semaine, c'est sa sim contre ma sim, mais il n'en m'en reste plus qu'elle. Mes 3 gigas par semaine,
mon Dieu, tous ces emails.
Demo Maker, t'as révisé pour la révision ? Ah, trop tard en fait.
Codeur, faut que j'ajoute un namespace. Port ou crevette ?
Eh ben oui. Électronicien, les gens ne pensent plus qu'à faire KiCad.
Télétravailleur, je veux bien aimer la réunion, mais à 25 images par seconde.
Ah, et pas plus. Hein.
Eh bien,
voilà.
Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Retrouvez l'émission en podcast sur underscore.radio.fm en rediffusion samedi prochain. Et sinon, la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission.
Ah bon ?
Eh oui, cette fois, ce sera peut-être sur le CD-ROM.
Ah oui.
Eh oui. À la semaine prochaine, bye bye.
Bye bye.
À la semaine prochaine.
Salut, ciao ciao.
Bonjour Mimane, bonjour Nadal, bonjour Flo.